France Inter, il est 7h.
France Inter, Alexandra Ben Saïd, Nicolas Demorand, le 7-9.
Et nous sommes le jeudi 17 octobre, bienvenue sur Inter. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, les paroles rassurantes d'Emmanuel Macron. Il n'y a pas de risque de retour en France des djihadistes retenus au nord de la Syrie. Le ministre français des Affaires étrangères est d'ailleurs aujourd'hui à Bagdad pour s'assurer de la coopération des autorités irakiennes. On voit ça après les autres titres.
Ultime négociation autour du Brexit à quelques heures du sommet européen de la dernière chance et alors que l'inquiétude gagne les milieux universitaires britanniques. La réforme des retraites et des questions autour des mesures en faveur des mères de famille et puis le Japon, nouvelle terre de conquête de l'Ovalie.
Les invités d'Inter ce matin à 7h50, Alexandra.
On va parler de la crise de l'hôpital public avec Antoine Pellissolo, il est psychiatre et chef de service au CHU Henri Mondor de Créteil.
À tout à l'heure, 8h20, le grand entretien de la matinale avec l'eurodéputé Les Républicains, François-Xavier Bellamy. Vous pourrez dialoguer avec lui. Le standard est ouvert dès maintenant. 01 45 24 7000.
France Inter.
C'est l'inquiétude des pays européens et notamment de la France depuis le début de l'offensive turque dans le nord de la Syrie que les djihadistes de l'État islamique profitent du chaos ambiant pour s'échapper des camps où ils sont détenus, un risque de dispersion souligné également hier par le Conseil de sécurité de l'ONU. Mais dans la soirée, donc, Emmanuel Macron s'est voulu rassurant. C'était lors de la conférence de presse à la fin du sommet franco-allemand qui s'est tenu à Toulouse. Ce risque, estime le chef de l'État, n'est pas avéré pour l'instant.
Ils peuvent, s'ils s'échappent, décider de recombattre. Et dans ces cas-là, il nous faudra prendre notre responsabilité en tant que coalition internationale pour stopper toute résurgence de Daesh. Si certains rejoignent le sol irakien, ils pourront être judiciarisés en tant qu'ils ont commis des crimes là-bas, ce qui est déjà le cas de plusieurs de nos ressortissants. Si certains voulaient rejoindre la France, ils n'ont d'autre choix que de passer par la Turquie, où, je le rappelle, nous avons un protocole qui fonctionne depuis plusieurs années et qui conduit les autorités turques à signaler ces personnes, et elles sont à chaque fois prises en charge à leur arrivée sur le sol français, emprisonnées et judiciarisées. C'est un sujet que nous suivons de très près sur le terrain, mais je veux ici rassurer chacune et chacun. Il n'est pas question de voir d'un seul coup ces combattants arriver sur le sol français comme cela par miracle.
Et c'est justement pour discuter avec les autorités irakiennes de la prise en charge des djihadistes français détenus en Syrie que Jean-Yves Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères, est attendu aujourd'hui à Bagdad. Par ailleurs, une dizaine de femmes djihadistes françaises et leurs enfants qui étaient retenus dans le camp d'Aïn Issina ont d'ores et déjà réussi à prendre la fuite. Certaines auraient été récupérées par Daesh. Nous y reviendrons dans le journal de 8h. L'Irak qui doit également faire face à un afflux de réfugiés kurdes syriens. Selon les chiffres de l'ONU, l'offensive de la Turquie qui a poussé sur les routes près de 200 000 personnes, privées de toute aide internationale depuis le départ de l'ensemble des ONG. Certains de ces réfugiés sont arrivés au camp de Domis, à une cinquantaine de kilomètres de la frontière syrienne, où vivaient déjà près de 30 000 Syriens. Aurélien Colli, l'envoyé spécial de France Inter dans la région, s'est rendu sur place. Reportage.
Allez ! Une dizaine de préfabriqués au fond du camp de Domis et une centaine de Kurdes qui viennent d'y être installés. Assis sur une couverture, Chéro est arrivé mercredi avec sa femme et ses cinq enfants. Je n'ai rien avec moi sauf les habits que je porte. On a passé trois nuits dans les champs, dans les rues, avant d'atteindre la frontière. 3 heures de marche pour la franchir et 200 dollars chacun pour le passeur, explique ce quadragénaire qui voit sa vie tourner en boucle. C'est la deuxième fois qu'on fuit. À Kobané, Daesh nous avait attaqués et ça recommence parce que les milices pro-turques, ce sont des gens de Daesh, accuse-t-il, en déplorant l'abandon de la communauté internationale. On est très en colère, on n'a plus confiance en personne. Est-ce qu'on n'est pas des êtres humains? Est-ce qu'on n'a pas des droits? Interroge l'homme, pendant qu'à quelques mètres, Jinda étend du linge sur le grillage du camp. On a fait tant de sacrifices, 11 000 morts, 25 000 blessés contre Daesh, tout ça pour des bombardements turcs et le retour du régime, déplore-t-elle, en prédisant l'arrivée de milliers de réfugiés comme elle, même si la frontière est encore fermée. Il y a beaucoup de gens qui attendent à la frontière et il y en a déjà qui arrivent tous les jours avec des passeurs, confirme une responsable du camp, alors que les autorités kurdes et l'ONU préparent des milliers de places pour les accueillir ailleurs dans la région. Dohuk, Aurélien Colli, France Inter.
Et puis c'est aujourd'hui que le vice-président américain et le chef de la diplomatie américaine rencontrent le président turc à Ankara pour tenter d'obtenir un cessez-le-feu. Dans le cas contraire, Donald Trump menace à nouveau la Turquie de sanctions économiques dévastatrices. Recep Tayyip Erdogan, lui, rencontrera enfin Vladimir Poutine mardi prochain à Sotchi. Les déclarations se veulent optimistes à quelques heures de l'ouverture théoriquement du dernier sommet européen à 28, mais le nouvel accord sur le Brexit entre Londres et Bruxelles n'est toujours pas signé. Boris Johnson, lui, continue de promettre que le pays sortira de l'Union européenne quoi qu'il arrive le 31 octobre. Et à J-14, l'inquiétude grandit au Royaume-Uni, dans les entreprises, mais aussi dans les universités, comme a pu le constater Antoine Gignot, correspondant de France Inter à Londres.
Dans l'amphithéâtre du King's College, 20 nationalités différentes pour ce colloque sur les mutations de l'ADN. Des professeurs, des étudiants, des chercheurs en post-doc comme Lina, allemande, pas certaine de rester au Royaume-Uni.
Il me reste un an de contrat, mais on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Moi, je suis venue ici pour rencontrer des chercheurs venus d'horizons différents, et là, je n'ai plus vraiment l'impression qu'on nous dit qu'on est les bienvenus.
Dans plus de la moitié des universités britanniques, les candidatures d'élèves et de chercheurs sont d'ailleurs en chute libre. Près de 60% des directeurs d'établissement reconnaissent aussi qu'ils ont perdu une partie du personnel. Pour attirer les étudiants étrangers, le gouvernement leur promet qu'ils pourront rester au Royaume-Uni pendant 2 ans après leur cursus et cherche un programme pour remplacer Erasmus, solution irréaliste pour Ambra Annibali, italienne spécialiste du génome.
Ça fait 6 ans que je suis là. Tout l'argent qui finance mes recherches vient pour l'instant de l'Union européenne. Je ne vois pas comment le Royaume-Uni seul va pouvoir trouver une solution. J'espère qu'ils ont une idée.
Car le dernier rapport indépendant le montre, les financements européens font travailler 19 000 chercheurs et universitaires au Royaume-Uni qui génèrent près d'1 milliard d'euros de retombées chaque année. Londres, Antoine Gignot, France Inter.
Un accord en discussion aussi sur la taxation des GAFA. Les 134 pays de l'OCDE vont livrer aujourd'hui au ministre des Finances du G20, réuni à Washington, leur proposition pour une nouvelle forme de taxation des géants du numérique. Le détail de cet accord dans le journal de 7h30. En bref, encore une troisième soirée de violence en Catalogne, avec des affrontements dans les rues de Barcelone entre militants indépendantistes et forces de l'ordre. Pour la première fois, les manifestants ont jeté des cocktails Molotov et d'acide. Les autorités catalanes ont condamné cette violence.
Il est 7h07, Agnès. Des questions ce matin sur le calendrier de la réforme des retraites.
Censée entrer en vigueur pour les salariés nés après 1963, la réforme pourrait être ajournée au moins pour certains régimes spéciaux, selon un plan B du gouvernement. Dominique Seux y reviendra à 8h moins le quart. Des questions aussi sur la future retraite des mères de famille. Le gouvernement promet que les droits acquis seront 100% conservés lors du passage au régime universel. Et pourtant, les trimestres accordés aujourd'hui aux mamans sont sur la sellette, Sarah Lemoine.
Partir à la retraite à 62 ans avec tous ces trimestres, c'est souvent compliqué pour les femmes qui ont eu des enfants, notamment celles qui ont arrêté de travailler temporairement. C'est pourquoi les mères de famille bénéficient de trimestres supplémentaires pour compenser des carrières souvent incomplètes. Des trimestres qui leur permettent de partir plus tôt, sans subir de pénalités. Dans le secteur privé par exemple, c'est 8 trimestres en plus par enfant. Sabine a 47 ans et elle s'interroge.
Moi j'ai 2 enfants et je sais que grâce à eux j'ai gagné 16 trimestres pour ma retraite. Donc je vais pouvoir partir 4 ans plus tôt. C'est important pour moi parce que j'ai arrêté de travailler 1 an après la naissance de ma fille. Et donc j'aimerais bien savoir ce que ça va devenir dans le cadre de la réforme.
Lors de l'entrée en vigueur du régime universel, a priori en 2025, les trimestres de Sabine seront convertis en points, ce qui lui permettra de toucher une pension plus importante que dans le système actuel. En revanche, elle n'aura plus la possibilité de partir plus tôt à la retraite. Cette proposition du haut-commissaire Jean-Paul Delevoye n'a pas encore été tranchée, mais elle remet en cause le dogme gouvernemental qui affirme que les droits acquis dans l'ancien système seront 100% conservés.
Et rappelons que tous les syndicats appellent à une journée de mobilisation contre cette réforme des retraites le jeudi 5 décembre. Une décision très attendue cet après-midi. Le tribunal d'Angers doit dire si le premier supermarché ouvert sans caisse le dimanche après-midi, le géant Casino d'Angers, peut continuer à fonctionner ainsi. Et puis les salariés de tout le groupe Michelin sont appelés à cesser le travail aujourd'hui pour protester contre la fermeture du site de La Roche-sur-Yon. 619 salariés sur le carreau. Direction le Japon à présent, en proie à une véritable rugby mania. Depuis la qualification de l'équipe nationale pour les quarts de finale de la Coupe du Monde, ce sera dimanche face à l'Afrique du Sud. Et il y a un joueur qui incarne cette réussite et cette popularité. C'est le capitaine d'origine néo-zélandaise. Son portrait signé Jérôme Val.
Impossible de déambuler dans les villes du Japon sans croiser le visage de Michael Leitch. Le capitaine des Brave Blossoms, le surnom de l'équipe nationale, s'affiche partout, dans les rues, dans les gares, dans les aéroports. Et dès qu'on allume la télévision, on le voit dans des pubs ou dans des émissions. Dans un récent sondage, il apparaît comme la deuxième personnalité la plus connue dans le pays, derrière le Premier ministre Shinzo Abe, avec un taux de popularité de 80%. Une performance d'autant plus remarquable que le rugby est loin d'être le sport numéro un ici. Michael Leitch est pourtant un gaijin, un étranger d'origine. Il est né d'un père néo-zélandais et d'une mère fidjienne. À l'âge de 16 ans, il quitte la Nouvelle-Zélande et part seul s'installer à Sapporo, dans le nord du Japon, au sein d'une famille qui vendait des sushis. Il y apprend le rugby et une autre façon de vivre, une autre façon de penser, et ça, son pays d'adoption lui en est reconnaissant. Aujourd'hui, il est marié à une japonaise et s'exprime parfaitement en japonais lors des conférences de presse. Capitaine de l'équipe nationale depuis 5 ans, il est pour beaucoup dans le changement d'état d'esprit des joueurs de l'archipel, longtemps considéré comme trop gentil et pas assez rugueux. Aujourd'hui, il ne craigne plus personne. Oita, Jérôme Val, France Inter.
Et puis dimanche matin, ce sera aussi le quart de finale entre la France et le Pays de Galles. Le boxeur américain Patrick Day, victime d'un violent chaos samedi dernier lors d'un combat à Chicago, a finalement succombé à un traumatisme cérébral. Patrick Day, âgé de 27 ans, avait reçu un terrible crochet du gauche lors du 10e round. Il est le 3e boxeur à mourir après un combat depuis le début de l'année. Et puis si la boxe est un sport dangereux, la cueillette des champignons n'est pas sans danger. Outre la possibilité de cueillir des espèces non comestible, la compagnie de gendarmerie d'Angoulême lance un appel à la prudence, car obnubilée par la recherche du précieux cep ou autre bolet, les cueilleurs finissent par se perdre dans les forêts. Les gendarmes ont dû intervenir à 4 reprises depuis le début de la semaine pour retrouver des ramasseurs égarés. Reportage de Pierre Marsat.
La forêt de la Braconne, à une dizaine de kilomètres d'Angoulême, c'est le sanctuaire des champignons et particulièrement des cèpes. Mais c'est là aussi que les gendarmes ont dû intervenir ces derniers jours, car les ramasseurs qui s'égarent ne sont pas rares. Thierry Pento, lui, reste toujours à proximité de sa voiture.
J'ai un copain qui s'est perdu une fois, perdu, façon de parler, parce qu'il savait où il était, mais enfin il pensait être à un autre endroit. Il était à 5-6 kilomètres de sa voiture quand même. Moi je m'éloigne pas trop de ma voiture quand je m'en vais.
Les cèpes de la Braconne, on les retrouve en vente en ce moment à Angoulême, place Mulhac, dans le quartier Saint-Cybard. Les prix ont bien baissé ces jours-ci, autour de 10 euros le kilo en moyenne. Corinne Charlot vend des champignons ramassés par d'autres et elle-même, elle va les cueillir depuis toute petite. Elle s'est toujours perdue en forêt.
Bien sûr que je me perds. S'il faut aller à droite, je vais à gauche. Et quand on se perd dans un bois, vous savez, c'est très délicat. Ma sœur Monique, donc de Montauban, ils se sont perdus dans le bois. Ils avaient des téléphones portables, mais ça ne passait pas.
Pour éviter une telle mésaventure, les gendarmes charentais conseillent de géolocaliser sa voiture et de partir comme en randonnée, avec des vêtements, de l'eau et des gâteaux. Quant aux familles, il faut prévenir le plus tôt possible. Le commandant Xavier Debac, chef de la compagnie d'Angoulême.
On fait appel à nous plusieurs heures après la disparition et lorsque la nuit tombe. Ce qui est quand même pas facile non plus pour nous de retrouver les personnes lorsque la nuit tombe ou lorsqu'il fait nuit.
Les gendarmes peuvent utiliser dans leurs recherches des maîtres chiens, un hélicoptère ou des drones.
La disparition du cueilleur de champignons, c'est un reportage de Pierre Marsat de France Bleu La Rochelle. La bonne nouvelle, c'est quand même 10 euros le kilo de cèpe.
Merci Agnès Soubirand.